Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Chacun sa vérité, la volupté de l'honneur, six personnages en quête d'auteur, ce soir on improvise, vêtir ceux qui sont nus, mais aussi l'exclu, feu Mathias Pascal, et encore les nouvelles pour une année. Des personnages fous, aveugles et sourds, mais qui n'ont pas le temps d'être malheureux, d'avoir des états d'âme. Des personnages qui ne meurent pas, du reste. Pirandello, héritier du théâtre du double, ses pièces déconstruites, Pirandello, grand pillard, qui personnalise ce qu'il a pillé, qui en fait sa création. Nous allons jouer la comédie pour de vrai. Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, première diffusion sur France Culture le 5 septembre 1996.
Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, L'étrange étranger, par Florence Marguier.
Pirandello, le parfum Mathias Pascal, il raconte à un moment donné une histoire. Mathias, il va voir une représentation des marionnettes, et les marionnettes sont en train de jouer Électre dans un petit théâtre de marionnettes. Mais il y a une tempête, et à ce moment-là, le cyclo, enfin la partie de derrière, ce qui faisait le ciel en papier du petit théâtre de marionnettes, se casse. Et il dit, et par ce trou dû au vent, toutes sortes de mauvaises influences entre sur la scène. Et Électre, qui était un personnage de tragédie antique, devient Hamlet. Quelqu'un qui se pose donc des questions sur son identité et son existence même. Et donc il dit cette chose magnifique, toute la différence entre la tragédie moderne et la tragédie antique tient en cela un trou dans le ciel de papier. Il écrit en permanence ça, toutes ses pièces décrivent, s'attachent à décrire avec la plus grande précision ces trous dans les ciels des papiers. Et de quelle façon toutes les influences, bonnes ou mauvaises, passent par ces trous sans qu'on puisse les contrôler. C'est que les personnages sont habités en permanence par ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont, par ce qu'ils voient et par ce qu'ils font, et plutôt par ce qu'ils ne voient pas et par ce qu'ils ne font pas. Ils sont comme des espèces de caisses, des résonances. C'est un peu comme, comment s'appelle ceux qui observent les insectes? Entomologiste, oui. Les entomologistes. Il est comme un entomologiste, c'est en ça que je trouve qu'il a un regard d'une tendresse formidable. D'ailleurs, ça se voit dans ses photos. C'est qu'il regarde les êtres humains comme des fourmis dans une fourmilière, dont il fait partie d'ailleurs. Hein, il n'est pas du tout. Il décrit leur mouvement comme ça, en s'attachant aux moindres petits événements qui sont la preuve de telle ou telle tension qui existe. C'est-à-dire, il essaie de comprendre. Prenez tous les plus grands auteurs de la littérature mondiale, vous ne trouverez pas des gens qui essaient d'expliquer. Vous ne trouvez que des gens qui essaient de comprendre.
impara a guardare le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne proverai il dolore, certo, ma quel dolore te le renderà più sacre e più belle. Forse è solo per dirti questo che t'ho fatto venire sin qua.
C'est un extrait d'une lettre envoyée en 1927 à son traducteur Benjamin Crémieux pour la traduction et l'édition de 10 nouvelles publiées sous le titre « Vieille Sicile ».
Dominique Dubord.
Je cite donc le début de la lettre de Pirandello. « Vous désirez quelques notes biographiques sur moi. Je me trouve extrêmement embarrassée pour vous les fournir et cela, mon cher ami, pour la simple raison que j'ai oublié de vivre. Oublié au point de ne pouvoir rien dire, mais exactement rien sur ma vie, si ce n'est peut-être que je ne la vis pas, mais que je l'écris. De sorte que, si vous voulez savoir quelque chose de moi, je pourrais vous répondre. Attendez un peu, mon cher Crémieux, que je pose la question à mes personnages. Peut-être seront-ils en mesure de me donner à moi-même quelques informations à mon sujet. Mais il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux. Ce sont presque tous des gens insociables qui n'ont eu que peu ou point à se louer de la vie. » Alors, il faudrait parler d'un rapport très difficile à son père. Il faudrait parler de la folie de sa femme. Et il faudrait parler aussi peut-être de manière à la fois très liée à son époque et à sa personnalité, d'une sorte d'horreur de la chair, d'horreur du corps qui se retrouve dans l'écriture. Bon, ça c'est une forme d'écriture autobiographique. Je dirais qui pourrait permettre à des psychanalystes de dire beaucoup de choses sur Pirandello. Mais il y a une deuxième forme de l'autobiographie chez Pirandello, c'est celle que suggère cette phrase à Crémieux. C'est-à-dire, face à cette très grande difficulté de Pirandello à être, à exister en tant qu'homme parmi d'autres hommes sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan politique. Face à cette très grande difficulté à être, il y a cette façon d'écrire comme compensation, écrire comme seule façon d'être.
Ce manuscrit s'appelle « Mon séjour involontaire sur la terre » et c'est le début de ses mémoires.
Giorgio Longo.
Qui a laissé inachevé, complètement inachevé, mais qui est un début absolument extraordinaire parce qu'il nous dit, par exemple, qu'il est né au Chaos. Chaos, c'était la maison maternelle de Pirandello. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est parler de la Sicile de Pirandello comme le théâtre naturel de la folie. Il dramma per me è tutto qui, Signore, nella coscienza che ho, che ciascuno di noi si crede uno, ma non è vero. È tanti, tanti secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi. Uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione, intanto, d'essere sempre uno per tutti. E sempre quest'uno che ci crediamo.
Tout ce qui est secret, occulte, ctonien, au fond, tout ce qui surgit du dessous de la terre, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne peut pas percevoir d'emblée. Ça, c'est vraiment sicilien et on le sent de manière très forte dans toutes les pièces de Pirandello, dans toutes ses nouvelles en particulier. C'est une entreprise d'enracinement, déracinement constant.
Jean-Paul Manganaro.
Et que l'on peut aussi voir à travers la folie. Il ne suffit pas de dire que la folie est dans Pirandello parce qu'il y a une biographie qui s'y adapte. Il faut dire aussi qu'il y a toute une culture sicilienne faite de mystères, de choses secrètes, de choses fabuleuses au fond. Hein. C'est une allure de la fable. On ne peut pas comprendre les géants de la montagne si on n'a pas cette dimension-là de fable en soi, de capacité d'inventer tout le temps tout ce qui n'est pas ce qui pourrait être. Une autre source qui est à mon avis très mal travaillée à propos de Pirandello, c'est cette adhésion aux transformations qu'a fait le sophisme. Hein. Il ne faut pas oublier que le sophisme naît quand même en Sicile avec Gorgias, qu'il y a cette dimension rhétoricienne chez Pirandello qui n'arrête pas d'interroger les clichés pour voir comment en faire le tour. Hein. Et je dis rhétoricienne parce que très souvent la réponse est un peu artificielle. Hein. Donc ça donne toujours des dimensions très spécifiques entre la fiction, l'artifice, la mise en scène, ça travaille toujours dans ce corps-là, où mettre la réalité, où la mettre et comment la mettre, quelle allure va-t-elle prendre à l'intérieur de ça, de cette épaisseur-là. Après tout, chacun peut retrouver la sicilianité de Pirandello où il veut. Moi, dans Comme tu me veux, je la vois dans les personnages mineurs, l'oncle et la tante. Ils ont vraiment une mentalité sicilienne, même si la pièce n'a pas lieu en Sicile. Dans Comme tu me veux, nous sommes en Vénétie, donc apparemment ça n'aurait aucune raison d'être, et pourtant je sens des singularités qui sont souvent de l'époque d'ailleurs, et qui rattachent les personnages à quelque chose de sicilien. C'est la manière dont ils discutent, en quelque sorte l'honnêteté et en même temps la petitesse du discours, qui n'appartient pas seulement à une classe sociale qui est celle de la bourgeoisie, mais qui appartient aussi à une manière de poser le discours qui est sicilienne.
Et tu ne perdrais rien, parce que c'est moi qui t'aurais trompé, moi, avec mon imposture.
Mais de quelle tromperie veux-tu parler? Tu es folle? Quelle tromperie?
Lucia, c'est ça. C'est bien établi maintenant, sois tranquille. Celle-là, on ne pourrait pas l'être davantage, n'est-ce pas? Vous m'êtes témoin, mon fils, que j'ai tout fait pour qu'il ne soit pas la victime d'une éventuelle imposture soupçonnée et déclarée. Oh, combien déclarée!
Les personnages, en réalité, sont, pour Pirandello, des êtres humains à part entière. Il n'arrête pas de parler de ça. Il a des nouvelles entières consacrées à ce thème-là. Il y a des pièces entières, comme par exemple les 6 personnages, où ce soir on improvise dans des tas de nouvelles. Il raconte d'une façon très très drôle de quelle façon les personnages viennent le hanter, viennent frapper à sa porte, s'imposer dans son bureau pour qu'il écrive leurs histoires et tout ça. Les personnages sont comme des âmes qui vogueraient sans corps,
Claudia Stavisky,
dans une sorte de monde aussi réel et aussi complexe que le nôtre, mais qui demanderait de l'auteur une langue pour pouvoir exister dans le monde des vivants. Comme si leur passeport était la langue que seul l'auteur peut leur procurer. Mais j'aime beaucoup cette notion qu'il a d'âme sans corps ou de corps sans âme et de corps qui rejoint son âme au moment où la langue apparaît. Il y a des fois, comme dans certaines nouvelles ou dans son roman, dans Feu Mathias Pascal, ou dans certaines pièces, celles qu'on appellerait les pièces déconstruites, comme les 6 personnages ou ce soir on improvise ou les géants de la montagne, où ce paradoxe-là est structuré à une forme tout à fait précise et tout à fait donnée, qui est celle du surgissement des personnages en tant que personnages de théâtre. Mais sinon, dans toutes les autres pièces, y compris même dans les premières, dans les plus archaïques, dans les pièces siciliennes, ce thème-là est un thème qui est constant parce que son théâtre est écrit comme ça. Il explore en même temps le champ théâtral, le plateau comme laboratoire d'expérience. Et à partir de là, toutes les lois et toutes les conventions qui font l'existence même du théâtre y passent en permanence. Parfois décryptées en tant que telle, et puis parfois suggérée par les passions que les personnages vivent, parfois, comme dans le jeu des rôles, parce que le personnage central est une actrice, parfois parce qu'elle est une mère, et une mère joue aussi un rôle devant... C'est-à-dire, cette question-là, profondément théâtrale, qui est la question entre la vie et la forme, et la question même de l'existence, elle va au-delà du théâtre. Elle va poser l'existence comme mystère et comme mystère insondable dont on ne peut avoir finalement que quelques bribes qui apparaissent de temps en temps. Ceci dit, je crois qu'on aurait tort de décharner, on aurait tort de décharner les personnages de Pirandello, parce qu'ils sont vraiment des boules passionnelles et charnelles à part entière. Et c'est parce que chacun d'entre eux est un peu plus qu'il ne le faudrait, qu'ils deviennent complètement irréels et des stéréotypes. C'est-à-dire, c'est un peu comme le travail de l'hyperréalisme chez les peintres, en quelque sorte. C'est tellement au-delà de la photographie, pour laquelle d'ailleurs Pirandello avait une passion extraordinaire, c'est simplement le travail de l'art. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est simple. C'est en même temps très simple.
Et en même temps, ça fait appel peut-être aussi à ce don d'observateur qui est très aigu chez lui. Enfin.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il adorait la photographie, d'ailleurs, et qu'il y travaillait énormément et qu'il faisait même lui-même des recherches là-dessus. C'est tous les moyens possibles et imaginables pour capter un instant de la réalité sont bons. Souvent le drame des personnages pirandelliens est qu'ils voudraient arrêter ce mouvement constant de la réalité. Ils voudraient pouvoir le fixer en une seule image définitive et à jamais immuable. Et ça, ce n'est pas possible.
C'est un petit peu ce que disait Pirandello quand il disait ce que j'aimerais, c'est en définitive, c'est tout réunir en un acte, en fait.
C'est cette conscience aiguë du mouvement perpétuel qui le hante, et qui le fait jouir et qui le terrifie en même temps, qui constitue la base même de la tension de son œuvre.
Voilà pourquoi celle-là n'était pas avec nous quand nous sommes arrivés. Vous comprenez, si on est là tous ensemble, tout a lieu trop vite.
Mais ça ne fait rien. Pour le moment, c'est une première ébauche. Tout me sert à cueillir pêle-mêle les divers éléments du drame. Allez, calmez-vous. Asseyez-vous.
Pirandello est un grand pillard. Il pille la culture de son temps, Schopenhauer. Il pille Alfred Binet, les altérations de la personnalité, il pille Gabriel Seay, etc. Et ces pièces, mais évidemment, ce qu'il a pillé ensuite, il le personnalise complètement et cela devient sa pièce à lui. Mais enfin, il travaille beaucoup par récupération, par économie. Et c'est un peu comme quelqu'un qui montrait et démontrait des mécanos, des Legos, enfin, qui, avec des pièces semblables, ferait une fois un garage, une fois une maison, une fois un jardin. Pirandello écrit comme cela. Et donc, ces pièces qui passent indifféremment d'un genre à l'autre, qui passent des nouvelles vers les pièces de théâtre, des nouvelles vers les romans, des romans vers le théâtre. Et le plaisir que l'on éprouve à lire ou à entendre Pirandello, c'est davantage, je dirais, le plaisir de la variation que le plaisir de la découverte première.
L'image que je préfère, c'est celle dont on n'a pas trace. C'est celle dont il parle lui-même quand il est tout seul dans son bureau et presque accroché à son bureau et qu'il entend les personnages qui font toc 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 à la porte. Et quand il dit « Oh non, pas aujourd'hui, laissez-moi en paix, je suis fatigué » et les personnages disent « Mais si, écoute mon histoire ».
Un pauvre chéri. Tu me regardes tout éperdu avec tes grands beaux yeux. Tu te demandes où tu es. Nous sommes sur une scène, tu sais. Ce que c'est qu'une scène? Et tu vois bien. C'est un endroit où on joue à jouer pour de vrai. On joue la comédie, nous allons jouer la comédie, tu sais, pour de vrai. Toi aussi. Oh, ma chérie. Ma chérie. Quelle vilaine comédie tu vas jouer. Quelle horrible chose on a imaginé pour toi. Un jardin. Un bassin. Et regarde, ils sont là. Ici, ici, au milieu de la scène. Ce seront des décors. Le malheur, ma jolie, c'est que tout est décor. Rien n'est vrai ici. Il vaut mieux imaginer.
Il écrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne serait-ce que parce qu'il avait une famille à nourrir et qu'il vivait de ça. Il était dans une situation économique très précaire après la ruine de sa famille avec des histoires des mines de soufre en Sicile. Ils avaient absolument tout perdu, y compris la dot de sa femme. Les mauvaises langues disent que c'est pour ça que sa femme est devenue folle. Et donc, pour nourrir sa famille, il écrivait des nouvelles, il faisait ce qu'il savait faire. Il était d'un côté prof d'italien dans une école des jeunes femmes, de jeunes filles, et d'un autre côté, il écrivait des nouvelles courtes qu'il publiait dans les journaux. Et donc, il en écrivait au moins 2 ou 3 par semaine, puisqu'il lui fallait tant par mois pour vivre. Donc, on trouve très souvent des nouvelles comme ça à l'origine de ses pièces. Par exemple, les 6 personnages. Il y a une nouvelle où il est en train d'écrire et il s'est... Mais ce matin-là, il n'a absolument pas envie de travailler et il est accroché à son bureau et puis d'un seul coup, il commence à entendre toc, 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 toc à la porte et il veut pas ouvrir parce qu'il sait que c'est des personnages qui viennent demander audience. Et puis finalement, ces personnages finissent par rentrer de force dans son bureau et il essaie de les chasser parce qu'il n'avait pas audience le jour X. Et ils viennent quand même et ils supplient de leur permettre de raconter leur histoire. Et c'est souvent toutes ces pièces, comme Tu me veux aussi, il y a 2 ou 3 nouvelles qui sont à l'origine de la pièce.
Comme tu me veux, mis en scène par Claudia Stavisky, avec Nada Strancar dans le rôle de l'inconnu.
Tu ne sortiras pas d'ici!
Tu ne vas pas m'empêcher de partir si je veux!
Je m'empêcherai ici!
À la force!
Oui! Si tu veux tirer parti du premier venu! Je ne suis pas le premier venu!
Lâche-moi!
Non!
Je veux partir avec lui!
Vous ne lèverez pas la main sur une dame que j'affirme connaître!
Vous êtes un intrus ici!
Madame ne vous connaît pas du tout! Parce qu'elle ne veut pas me connaître, mais en fait elle me connaît très bien! Je suis pas fille!
Le photographe?
Ah!
Porfi ? Ah !
Celui qui a découvert le portrait stéréoscopique, justement.
Souvent, c'est pas une seule nouvelle qui donne origine. Souvent, c'est plusieurs nouvelles ensemble. Par exemple, sur Vêtir ceux qui sont nus, il y a plusieurs choses. Il y a des articles de presse d'un véritable suicide d'une jeune fille qui a eu lieu à ce moment-là. Il y a 2 de ces nouvelles qui évoquent déjà la présence du consul Grotti et une autre de l'écrivain Ludovico Nota. Souvent, c'est pas une seule nouvelle, mais c'est un amalgame de plusieurs.
Avant de vous laisser en sa compagnie pour un fragment de Chacun sa vérité de Luigi Pirandello, la Société des comédiens français vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques.
Madame, il faut absolument que vous vous expliquiez. Est-il possible que votre gendre soit venu ici nous raconter une histoire de brigand?
Oui. Oui, monsieur le secrétaire général, je vais tout vous raconter. Mais il faudra avoir pitié de lui, n'est-ce pas?
Comment? Mais il n'est pas vrai que votre fille soit morte.
Dieu m'en préserve.
Mais alors c'est lui qui est fou.
Mais non, je vous en prie, écoutez-moi.
Écoutez-moi,
il ne l'est pas. Laissez-moi parler. Vous l'avez vu. Il est si sanguin de tempérament, si violent. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Tant il aimait ma fille, qui elle est plutôt délicate. Sur le conseil des docteurs et des parents, de ses propres parents. Les pauvres, ils ont tous disparu depuis. On lui a arraché sa femme, en cachette, et on l'a conduite dans une maison de santé. Et alors lui, quand il ne la trouva plus à la maison, il tomba dans un désespoir furieux. Il crut qu'elle était morte. On ne put rien lui faire entendre. Il s'habilla de noir, il commit mille folies, et on ne put l'arracher à cette idée fixe. Si bien qu'un an après, quand ma fille, qui avait retrouvé la santé, lui fut rendue, il refusa de la reconnaître. Il sait. Non, ce n'est pas elle. Il la regardait et il recommençait. Non, ce n'est pas elle. Oh, quel déchirement! Il s'approchait d'elle. On aurait cru qu'il allait la reconnaître. Et il recommençait. Non, ce n'est pas elle. Pour la lui faire reprendre avec la complicité de quelques amis, nous avons été obligés de simuler un second mariage.
Ah, c'est pour ça qu'il...
Oui, mais il y a longtemps qu'il ne croit plus à cette histoire, lui non plus. Mais c'est un besoin chez lui de la laisser croire aux autres. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme pour s'en convaincre lui-même. C'est aussi peut-être parce que, de temps en temps, la peur le saisit, qu'on lui enlève encore sa jeune femme. C'est pour ça qu'il l'enferme à clé. Oh, il la veut toute pour lui. Mais il l'adore. J'en suis sûre. Et ma fille est heureuse. Je me sauve, je ne veux pas qu'il rentre tout de suite chez lui, si, comme vous le dites, il est tellement agité. Patience. Cette pauvre petite qui est obligée de faire croire qu'elle n'est plus elle, mais une autre. Et moi, qui dois simuler la folie. Mais comment faire autrement? Enfin, pourvu qu'il soit calme, lui. Ne vous dérangez pas, madame, je vous en prie, je connais le chemin. Au revoir, mesdames, messieurs, je vous salue bien.
Pirandello, saisi par la psychanalyse, en quelque sorte le thème de notre dialogue. Je voudrais simplement rappeler que la psychanalyse ne prétend pas, comme le dit Freud, comme il le rappelle prudemment, expliquer le mystère du don de la création esthétique, artistique elle-même.
Paul Laurensoun.
En revanche, elle peut et elle doit intervenir de façon assez précise pour comprendre comment un auteur engage son activité inconsciente, enfin, dans son écriture littéraire. Alors, je crois que l'œuvre de Pirandello se prête à une pareille lecture, parce qu'elle est visiblement organisée autour de la répétition inlassable au cours d'une production énorme, avec la même recherche d'une énigme. Enfin, cette idée du caractère introuvable de l'identité. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qui est masque, qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est personnage, qu'est-ce qui est réalité fictive.
C'est-à-dire que chez Pirandello, il y a toujours une sorte de recherche de qu'est-ce que c'est que se créer, qu'est-ce que c'est que créer un autre que soi-même.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, Pirandello semble toujours décrire et commenter, parce que vous remarquerez que très souvent, il ajoute une sorte de philosophie, enfin, qui accompagne en permanence sous forme de commentaires intérieurs sa production littéraire. On peut trouver la philosophie de Pirandello un peu sommaire, mais je crois que Pirandello n'est pas un philosophe d'abord. C'est quelqu'un qui décrit une certaine situation, sans doute de nature psychique, et qui devient une situation un peu métaphysique. Alors, Est-ce qu'on peut oser chercher cette situation, la décrire? En ce qui me concerne, je la décrirai de la façon suivante. On a un sujet qui, à un moment donné, s'interroge devant son miroir, par exemple, hein, comme dans ce texte « Un personne et 100 000 », où brusquement le personnage, de façon un peu comique, enfin, s'interroge sur son image, sur le rapport à son nez. Il s'interroge brusquement sur son identité physique, sur son identité corporelle, ce qui embraye, ce qui organise tout un processus de doute. Ça nous fait penser d'ailleurs à une nouvelle de Gogol, hein, sur le nez, un personnage qui perd son nez brusquement, où il y avait même un texte d'un auteur oublié, Edmond Abou, hein, sur le nez du notaire. On voit l'histoire d'un notaire qui perd son nez et qui... C'est un thème qui est à la fois un peu surréaliste par sa connotation, évidemment, de mise en crise, si je peux dire, de l'image du sujet. Et ça pose la question en même temps de... pourquoi est-ce qu'à certains moments, nous avons affaire à un sujet qui brusquement a le sentiment de dépersonnalisation, de plus habiter normalement son corps, de ne plus pouvoir avoir une référence stable, d'une part à son corps, d'autre part à son nom. Ce qui est très important.
Et là, dans le roman, il perd son nom. Enfin, il se pose des questions sur son nom.
Voilà, exactement. Alors, si Pirandello ne voulait pas faire de psychanalyse, il ne veut pas faire de psychanalyse, je veux dire, c'est un peu raté de ce point de vue-là, puisque justement, et c'est ça qui me paraît très intéressant, Freud dit lui-même que les écrivains sont le plus intéressant quand ils ne veulent pas produire une signification inconsciente, mais quand ils la retrouvent, cette signification inconsciente, par leur écriture. Or, il faut savoir, en psychanalyse, un sujet a le sentiment de son identité, d'abord de façon imaginaire, par la référence à l'unité de son identité corporelle, son miroir, mais aussi une identité symbolique dans la référence à son nom. C'est-à-dire qu'un sujet ne peut exister, ne peut se étreindre à son existence, que s'il peut unifier son image dans le miroir et se reconnaître, littéralement, et d'autre part, s'il peut s'inscrire dans une filiation, c'est-à-dire être nommé, ce que Lacan appelle la fonction du nom du père. Si par contre il y a un trouble dans l'identité imaginaire et ou symbolique, bien, le sujet doute. Il doute fondamentalement, ce qui organise un état de nature hystérique, c'est-à-dire quand le sujet est dans un vécu toujours théâtral de lui-même, hein, ou bien dans des cas plus graves, dans la psychose, où il y a une véritable dépersonnalisation, où le sujet ne sait plus à proprement parler qui il est. Or, Pirandello est passé maître, je trouve, dans l'art de décrire une situation où le sujet est en proie, comme ça, à une crise, où il entre dans une perplexité vis-à-vis de lui-même. Alors, tous les thèmes philosophiques ou pseudo-philosophiques sur le relativisme, à chacun sa vérité, personnage en quête d'auteur, c'est une manière de décrire. Au fond, ce qui se passe quand le sujet est dans ce vécu de dédoublement et d'aliénation par rapport à lui-même et par rapport aux autres. À ce moment-là, il se pose la question de son être même. Seulement, Pirandello ne fait que décrire cela. Là où la psychanalyse peut s'interroger de façon un peu indiscrète. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas chez Pirandello lui-même, dans son histoire, des raisons qui expliqueraient cette... perplexité, j'ai envie de jouer sur les mots, perplexité sur le rapport au père, enfin, sur le nom du père, et sur la possibilité de jouer cette identité. Il me semble qu'il y a une sorte de folie chez Pirandello, qui n'est pas évidemment une folie au sens pathologique, mais qui est mise sans arrêt en scène dans son écriture. C'est pour ça que, selon moi, Pirandello n'a pas le choix d'écrire ou pas. Hein. Il écrit sous la pression de ce secret.
À la scène, tout sera en carton peint. La pierre tout autour sera de carton, l'eau sera de carton, les plantes aussi. Mais peut-être un bassin en carton peint te plairait-il davantage qu'un bassin véritable, ma chérie, pour pouvoir y jouer. Mais non. Ce sera un jeu pour les autres. Non pas pour toi, par malheur, ma chérie, qui est vraie, qui jouera véritablement au bord d'un bassin véritable. Un grand bassin vert, ombragé de bambou, avec tous les petits canards qui nagent dessus, déplaçant l'ombre.
En fait, on peut dire de chacun des personnages de Pirandello, y compris des personnages mineurs, qui sont fous, dans le sens où chacun est si corps et âme investi, profondément investi dans l'aventure de vie qui est la leur, qu'ils vont jusqu'au bout d'un parcours dont ils ont une nécessité absolue. Antoine Vitez, il disait au sujet des personnages de la tragédie, il faudrait être fou, aveugle et sourd pour ne pas comprendre que. Et puis finalement, ces personnages, on se rend compte qu'ils sont fous, aveugles et sourds. Les personnages de Pirandello sont des personnages tragiques dans ce sens-là. Ils sont fous, aveugles et sourds. Ils ne poursuivent que leur quête vibrante, comme ça. Dans Comme tu me veux, il y a les deux visions extrêmes de la folie. Il y a la folie vivante dans le personnage de l'inconnu, et il y a la folie morte qui arrive à la fin dans le personnage de la démente. Cette alternative, finalement, n'est qu'une seule. Il suffit de pousser plus en deçà ou plus au-delà les limites du réel pour échapper de l'une et arriver à l'autre. Mais il est évident que dans cette obsession de vie de l'auteur, il y a l'intensité qui fait fi du danger en permanence. Ce sont des personnages qui n'ont jamais peur du danger dans lequel ils se mettent, parce qu'ils ont souvent l'impression que c'est seulement dans ce danger-là, c'est-à-dire dans le danger qui constitue la création d'un monde propre et personnel, d'une vision propre et personnelle de la réalité qui peuvent exister. C'est leur seule façon de fuir les conventions. En réalité, ils sont jamais des personnages malheureux, non plus aucun. Donc, Comme tu me veux, naturellement, Bruno, le mari, est un personnage tragique dans le sens où il voit sa vie entière, sa construction entière se dérober sous ses pieds. Mais ils n'ont pas le temps, non plus, pour être malheureux. En fait, ils n'ont pas le temps pour avoir des états d'âme.
Attendez ! Je crois avoir lu. Mais oui, il y a quelques années de ça. Le mari l'a fait publier il y a quelques années.
Moi, je n'ai certainement pas lu.
Toute ton attitude n'est qu'une imposture.
Jean-Paul Manganaro, vous avez traduit donc la pièce de Pirandello, Comme tu me veux.
C'est une pièce de 31, si j'ai bonne mémoire. C'est une pièce qui s'inspire beaucoup d'une situation de l'étranger de Pirandello. Je dis ça entre guillemets, c'est le premier parcours de la pièce se situe à Berlin. C'est donc aussi une remémoration pirandellienne de la période qu'il a passée à Berlin, où il a travaillé assez longtemps. Elle est importante parce qu'elle est dédiée à Martha Abba, c'est-à-dire à l'actrice qui était dans sa compagnie. Le personnage principal s'appelle l'inconnu, et très très marqué du point de vue dramaturgique, du point de vue donc de la scène, et aussi linguistiquement. C'est une parole qui est tout à fait nouvelle, au fond, chez Pirandello. Et il y a quelque chose d'étonnant dans cette langue qui commence à être vraiment une langue de lutte. Il y a, à l'intérieur de ça, un combat de femmes qui est très important. C'est justement un devenir féminin qui se constitue sur scène, et qui va décider, au fond, l'histoire des autres, puisque les autres n'arrivent pas à décider son histoire à elle. Et en cela, c'est vraiment un engagement de lutte. C'est une lutte, un combat, si vous voulez. C'est à travers la langue qu'il se fait. C'est une langue qui n'arrête pas d'établir des duels. Elle se sert de sa langue comme si elle avait un fleuret à la main. Et donc, elle pourfend, elle coupe, elle tranche. Elle dévisage, en fait, c'est vraiment une langue de lutte.
Una donna che vuole essere uomo, un vecchio che vuole essere giovine. Nessuno di noi mente o finge. C'è poco da dire, ci siamo fissati tutti in buona fede in un bel concetto di noi stessi. Monsignore, però, mentre voi vi tenete fermo, aggrappato con tutte e due le mani alla vostra tonaca santa, di qua, dalle maniche, vi scivola, vi sguiscia come un serpe qualche cosa di cui non vi accorgete, monsignore, la vita. E sono sorprese quando ve la vedete d'improvviso consistere davanti così sfuggita da voi, dispetti e ire contro voi stessi, o rimorsi, anche rimorsi. Ah, se sapeste, io me ne son trovati tanti davanti, con una faccia che era la mia stessa, ma così orribile che...
Alors nous y sommes bien. La scène entre vous et Madame Pache vient de finir. Oui, cette scène-là, j'écrirai moi-même. Bon, alors ne bougez plus. Où allez-vous?
Bah, attendez que je mette le chapeau.
Bon, alors vous baissez la tête et vous attendez.
Mais elle n'est pas habillée de noir. Ben moi, je serai habillée de noir et un peu mieux que vous.
Ah, silence, vous en prie. Regardez bien. Vous allez prendre une leçon. Une. Deux. Trois. Entrez.
Il suffit d'entendre cette langue-là, d'entendre la respiration de cette langue-là, et de la dire, un peu comme...
Quelle est la texture même de la langue?
Ça tient énormément au texte français. J'ai commandé le texte français à Jean-Paul Manganaro, qui est un grand traducteur de l'italien, et qui est lui-même siciliano-français ou franco-sicilien, je ne sais pas. Et qui a fait un travail très 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 proche de l'italien, parfois à la limite, à l'extrême limite de la grammaire française, à l'extrême limite, mais comme Pirandello l'est à l'égard de la grammaire italienne. Il est resté proche de ce caractère violent, abrupt et pas du tout explicatif du texte original, qui a été souvent, on doit le dire, déformé lors des traductions des années 50-60 par le privilège de tel ou tel aspect de la thématique pirandellienne. Il y a des questions grammaticales tout à fait précises, comme par exemple les tirets. Pirandello, dans cette pièce, ne met pratiquement jamais des points de suspension. Il coupe les phrases souvent par des tirets suivis de majuscules, en règle générale, suivis de la suite de la phrase en majuscules, ou alors par des points. Ça, c'est des indications pour les acteurs, pour l'ascension du texte, c'est des indications très très précieuses. Si on considère que, si on suit la respiration de l'auteur, on arrive au cheminement de la pensée du personnage, on peut donc conclure que la pièce dans son ensemble est le labyrinthe à l'intérieur duquel la pensée de chacun de ces êtres se meut et se perd. Et la pensée chez lui n'est jamais une chose, intellectuelle ou construite artificiellement. La pensée, c'est la formulation, en fait, par la langue, de cet ensemble de passions, d'impulsions, de désirs, des forces que chaque personnage trimballe avec lui. Et dans son langage, ce que l'on ressent fondamentalement, c'est ça. C'est quelque chose d'haletant, de très vivant et de très dynamique, de très fatigant même dans son rythme. Ou alors comme si le langage n'était autre chose que la formulation de ces marques vitales-là qui peuvent se résoudre finalement dans le laboratoire de la scène. Il a essayé toute sa vie durant de comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient l'existence des êtres humains. Et il a pris effectivement le plateau comme laboratoire, comme terrain d'expérience.
Un flot de salive intarissable l'empêchait de parler. Il la ravalait non sans peine en luttant contre les sanglots avec un gargouillement horrible dans la gorge. Il avait le visage livide, brouillé, terreux, les yeux sombres et voilés où se découvrait derrière la folie une peur presque enfantine, encore consciente, infinie. Il continuait avec les mains de lui faire signe, d'attendre, de ne pas s'épouvanter, de se tenir à l'écart. À la fin, d'une voix qui n'était plus la sienne, il dit « Dedans, enferme-toi dedans. Bien, ne t'épouvante pas. Si je frappe contre la porte, si je la secoue, je la griffe et si je crie, ne t'épouvante pas. N'ouvre pas. Rien. Va-t'en, va-t'en. » Mais qu'avez-vous ? Cria Sidora, frémissante d'horreur. Bata eut un nouveau gémissement, fut ébranlé par un puissant sursaut convulsif qui sembla multiplier ses membres. Puis d'un zigzag du bras, il indiqua le ciel et hurla « La lune !»
Les frères Taviani sont très clairs quant à leur démarche. Dans plusieurs interviews d'ailleurs que j'ai lues, il émane clairement que Pirandello leur a servi comme un auteur de sujets.
Karine Vakers.
C'est-à-dire que les nouvelles en soi étaient des sujets cinématographiques et qu'ils n'ont en aucun cas la prétention d'utiliser la nouvelle telle qu'elle pour la transposer telle qu'elle au cinéma. Donc ils ont fait appel à un scénariste très connu en Italie, Tonino Guerra, pour leur faire une adaptation réelle, une adaptation cinématographique à partir de la nouvelle.
Da l'argento e voi l'oro portati.
Bata était là. Il gisait comme une bête morte, à plat ventre dans sa bave, noire, tuméfié, bras ouverts. Assis près de lui, sur le derrière, son chien le gardait sous la lune. Sidora se glissa dehors en retenant son souffle, rapprocha tout doucement le bâton de la porte, adressa un signe rageur au chien pour lui interdire de bouger et prudente, à pas de loup. Sa pèlerine sous le bras, elle prit la fuite vers le village à travers la campagne. Dans la nuit encore complète, toute blanchissante de clarté lunaire. Elle arriva au village, chez sa mère, peu avant l'aube. Sa mère venait de se lever. La masure, sombre comme un antre au fond d'une ruelle étroite, était mal éclairée par une lampe à huile. En voyant sa fille à cette heure et dans cet état, la mère se mit à pousser des cris qui firent accourir toutes les femmes du voisinage, leur lampe à l'huile à la main. Sidora commença à pleurer, sans retenue, et tout en pleurant, elle s'arrachait les cheveux, faisait semblant d'être incapable de parler pour mieux faire comprendre et mesurer à sa mère, aux voisines, l'énormité de ce qui lui était arrivé, de la peur qu'elle avait eue. Le mal de lune, le mal de lune! Au récit de Sidora, la terreur superstitieuse qu'inspirait ce mal obscur envahit toutes les femmes.
Le mal de lune, c'est je dirais, purement physique. C'est une histoire purement physique, puisque, bon, comme la tradition le voulait, donc cette jeune femme se retrouve mariée avec un paysan qui habite à une heure à pied du premier village, et donc de chez sa mère à elle. Et c'est lui qui lui dévoile le soir où la pleine lune va se lever. Qu'il est malade, qu'il est atteint du mal de la pleine lune, puisque sa mère, en étant enfant et n'ayant pas fini de moissonner, a continué à moissonner la nuit, une nuit de pleine lune, l'a laissé dans son couffin, sous la lune, et il a été envoûté par la lune. Et donc il est en proie à une crise terrible, très très violente, qu'il ne peut réprimer. Et il conseille à sa femme de s'enfermer chez elle, chez eux, dans leur maison, de bien tout fermer, parce qu'il ne répond de rien, il ne peut pas se contrôler. Et effectivement, tout est à fleur de peau. Et en même temps, dans la nouvelle, c'est peut-être moins perceptible, mais en tous les cas, je pense, une chose, c'est que les Taviani ont parfaitement réussi à rendre visuellement ce corps en sueur de la femme qui est en train de nettoyer son plancher, son carrelage avec ses pieds, donc comme s'il avait des patins, et qui est en sueur, les cheveux dégoulinants. Et pareil, son mari qui est dehors, essayant d'arracher le seul arbre qui reste sur cette terre aride, s'accrochant à ce qu'il peut, et tous les deux complètement désemparés, et à la fois, quand même s'en voulant, lui s'en veut d'être comme ça, et elle lui en veut de ne pas avoir su, avant de se marier, ce qui se passait.
Ah!
Ah, mais je ne servirai pas plus longtemps de polichinelle.
Non, moi non plus. Allez vous finir. C'est une malignité, voilà ce que vous êtes, une insolente.
C'est vrai, monsieur, excusez-la.
Ah, je n'ai pas l'excuser, c'est indécent.
Oui, je comprends bien, monsieur, mais vraiment, vous n'imaginez pas quel étrange effet ça nous produit à nous.
Étrange, comment étrange? Pourquoi
oui,
étrange?
Oui, oui, croyez-moi, j'admire beaucoup vos artistes, monsieur et mademoiselle, mais ils ne sont pas nous.
Ah, c'est clair, ils ne sont pas vous, ils sont les acteurs.
Oui, oui, les acteurs, ils jouent et tout à fait très bien nos rôles, n'est-ce pas? Mais pour nous, ça fait l'effet d'une chose différente qui voudrait être la même et qui ne l'est pas.
Qui ne l'est pas, mais qu'est-ce que c'est donc alors?
Mais c'est une chose qui leur appartient à eux. Qui nous appartient pas.
Mais par force, je vous l'ai déjà dit.
Oui, je comprends bien.
Oui, alors, Philippe, songeant, nous répéterons sans eux comme il faut. Ça a toujours été un empoisonnement pour moi de répéter devant les auteurs. Ils sont jamais contents.
Laurent Assoun, chez Pirandello, il y a ce thème du double, il y a cet être qui est là, où le corps à la fois est morcelé et en même temps tente à se composer, et en même temps il y a cet étranger qui est paradoxalement lui-même. Alors comment ça se joue ces choses-là? Parce que ça revient sans cesse comme quelque chose aussi d'obsédant chez Pirandello.
Alors vous savez que le thème du double est un thème très ancien dans la littérature, dans le romantisme allemand, chez Jean-Paul Richter, il a été réutilisé chez Hoffmann. Il y a toute une grande tradition, et de ce point de vue-là, Pirandello est une sorte d'héritier de cette obsession du double. Ce qui est curieux, c'est que chez Pirandello, ça débouche sur un relativisme, je dirais un peu flou. Et c'est comme ça que, personnellement, j'expliquerai une certaine tentation, évidemment, de Pirandello à la fin de sa vie pour l'idéologie fasciste. Parce qu'on pourrait se dire, mais quel rapport est-ce qu'il y a entre sa conception et le fascisme? Peut-être que justement il a trouvé dans cette représentation d'une sorte de père tout puissant, et un peu, je dirais, obscène, enfin, mais en même temps tout puissant,
qui est Mussolini,
une sorte de réponse. Certes, on pourrait dire catastrophique, mais en même temps, une sorte d'échappement désespéré au relativisme. Puisque je ne sais pas qui je suis, c'est dans une identification à une sorte de père de horde primitive, comme pourrait le dire Freud, que je vais retrouver mon identité. Hein. Alors, c'est de ce point de vue-là que la psychanalyse, elle, irait beaucoup plus au fait de reconfronter le sujet à sa véritable identité symbolique. N'ont pas trouvé la solution dans une sorte d'imaginaire de substitut, dans une identification factice, mais plutôt affronter son être désirant. C'est de ce point de vue-là que le théâtre de Pirandello me semble renvoyer une impasse, mais c'est peut-être cette impasse aussi qui en fait l'intérêt, c'est-à-dire de toujours se maintenir au bord d'une identité sans solution. Enfin, il n'y a pas de fin heureuse chez Pirandello, en tout cas dans son œuvre.
Maria Cazares a fait son entrée au théâtre français dans le rôle du personnage des six personnages en quête d'auteur, le rôle de la fille. Et j'aimerais lui demander si elle a l'impression de jouer le jeu, c'est-à-dire est-ce que lorsque vous entrez en scène, vous voyez des comédiens qui répètent, qui ne jouent pas encore un spectacle, et vous êtes le personnage qui amène la pièce sur scène, ou bien sentez-vous déjà un spectacle commencer avec des spectateurs qui le suivent?
Écoutez, il m'est difficile de le dire clairement parce que d'abord je n'ai joué la pièce qu'une fois. Alors, il y a toute une part de personnel, de peur et de trac qui m'a empêché d'avoir une impression pure. Et puis, il y a toute une partie qui vient de la mise en scène de Julien Berthaud, qui, si vous voulez, quand on entre en scène, on n'a pas l'impression d'abord d'être sur une scène de théâtre, et puis on ne voit personne. C'est pas, c'est une, je crois que ça tient à l'éclairage. Et ce n'est que peu à peu qu'on entre dans le jeu. Mais alors, c'est dans le jeu vrai. C'est-à-dire, à mesure que la pièce avance, on devient les personnages, et à tel point que parfois, on est gêné par la présence des acteurs. Enfin, des acteurs oui, qui jouent les acteurs.
Oui. Eh bien, nous pourrions demander à Maria Cazares, car tous les critiques l'ont signalé, son interprétation est extrêmement différente de celle de René Fort. On ne peut absolument pas faire de comparaison. Il serait très intéressant de lui demander de bien vouloir nous donner un très court passage de son rôle.
C'est vrai. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, pour le tenter. Dans la mélancolie de son cabinet de travail, au crépuscule, quand étendu dans son fauteuil, il ne se décidait pas à tourner le commutateur et laisser l'ombre envahir la pièce. L'ombre se peuplait de personnages qui venaient le tenter.
Si vous en aviez tous, si vous nous laissiez seuls, maman là, avec son fils aîné, moi avec cette petite, le petit là, seul, comme toujours. Et puis, moi, avec lui. Et puis moi, seul. Moi seul, dans cette pénombre. Oh, ma vie! Quelle scène! Quelle scène nous lui proposions!
Il a réuni toutes ses pièces sous le nom de Masque nu. Et là-dessus, il a des textes absolument formidables, mais qui, d'une façon, j'ai peur de trop simplifier sa pensée, mais ce serait en quelque sorte toujours dans cette tension extrême entre la forme et la vie. Les êtres humains sont obligés de porter une sorte de masque, comme une épiderme qui serait en contact donc avec l'air, avec la société dans laquelle on vit, et qui permettrait que tous les mouvements des métabolismes internes se fassent intimement à l'intérieur de cette peau. Et il dit lui-même que ce qui le passionne dans ces masques, c'est autant le masque que nous portons quotidiennement 24 heures sur 24, que le moment où, dans des situations parfaitement extrêmes, ce masque tombe et on voit ce qu'il y a derrière, comme si la peau d'un corps se détachait et on pouvait voir de quoi est fait ce corps jusqu'aux os, jusqu'au squelette lui-même qui soutient toute cette construction humaine. Mais ce qui est très très beau chez lui, c'est que, et ce qui est d'ailleurs d'une tendresse inouïe vis-à-vis des êtres humains, c'est que il s'attache autant au masque qu'à ce qu'il y a derrière, et il éprouve autant de tendresse ou autant de dégoût pour la fonction sociale de ce masque-là que pour les moments extrêmes où ce masque tombe, qu'on découvre ce qu'on pourrait considérer la réalité ou la face cachée de chacun des personnages. Et il les soigne, je trouve qu'il les soigne et qu'il les ménage énormément dans toutes les situations qu'il leur propose de vivre, aussi dures soient ces situations-là, aussi complexes, aussi douloureuses qu'elles soient. Je trouve qu'il y a une tendresse extrême pour la vie et une sorte de confiance. Enfin, là, je vais peut-être vous étonner en disant ça, parce que ces pièces sont en général très dures et en général finissent mal. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une confiance extrême dans l'être humain et dans ses capacités de ressources et dans ses capacités de mouvement. C'est comme si il travaillait, comme si ses personnages étaient tout le temps invincibles, un peu comme les personnages shakespeariens, invincibles et capables de traverser toutes les tempêtes de l'existence, les yeux ouverts. Et ça, c'est une chose qui m'est très très chère dans son œuvre.
C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de sens du défi, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de la... On parle peu de la mort, mais en définitive, on la regarde en face.
Il meurt jamais, ces personnages. Il ne meurt jamais, il traverse des situations, mais où vous et moi, on serait mais par terre. Et il plie, mais il ne casse pas. Il ne casse jamais. Et ils sortent à chaque fois avec un acquis, quel qu'il soit, d'ailleurs, que je me garderai bien de nommer positif ou négatif.
Ça me fait penser à la théorie de l'homme nu chez Simenon, par exemple, qui étudie en permanence les masques et en même temps la nudité. Je crois que ceux qui sont obsédés par les masques recherchent la nudité. Mais la question est de savoir ce qui se cache derrière le masque. Il peut y avoir l'authenticité de l'être, sans masque, ou il peut y avoir l'horreur pure. Et la mort n'a pas de visage, la mort n'a même pas de masque. Alors, de ce point de vue, je crois que Pirandello traque quelque chose. Je pourrais aussi parler de Cocteau et de ce qu'on trouve, vous savez, dans les films de Cocteau. C'est un moment très fort où il tente de traverser le miroir. Mais derrière le miroir, eh bien, il n'y a pas le paradis narcissique, il y a la mort. Et vous voyez, on revient au point de départ, c'est-à-dire que le miroir est une impasse. Donc il n'y a pas au fond de réalité qui soit nue. Pour pouvoir exister, je dois pouvoir d'une certaine manière quitter l'identification factice. Alors Pirandello, d'une certaine manière... Au fond, c'est la question, qu'est-ce que veut Pirandello ? Enfin, lui-même ne le sait pas, peut-être heureusement, mais il écrit d'une certaine manière pour décrire, il écrit justement pour décrire cette mascarade permanente et en même temps pour inventorier les masques, si je peux dire, hein, jusqu'en ce point où... le sujet, je dirais, avouerait son incertitude. Hein. Là où la psychanalyse dirait plutôt, là où le masque est, une certaine vérité doit advenir.
C'est une œuvre littéraire qui a été de nombreuses fois adaptée au cinéma. Et notamment, c'est un petit peu comme ça que je suis venue à la lecture des nouvelles de Pirandello. C'est en voyant un film qui était tiré de la nouvelle Le Voyage. Il s'agit d'une femme qui évolue dans un milieu éminemment bourgeois, milieu dont vient Pirandello, donc il connaît parfaitement. D'ailleurs, Pirandello la représente comme une femme particulièrement enfermée sur elle-même, qui a eu le malheur d'épouser le plus jeune fils d'une famille, et donc de s'attirer aussi un petit peu au départ les foudres du frère aîné de son mari, puisque normalement dans la tradition sicilienne, c'est le frère aîné qui se marie pour ne pas disperser l'héritage, et au détriment bien sûr des autres membres de la famille. Et là, c'est le contraire. Donc le sort en a décidé autrement. Et le destin a voulu que cette femme perde son mari au bout de 4 ans de mariage, la laissant avec 2 enfants, qu'elle se retrouve donc veuve, tout en noir, tout de noir vêtue comme en Sicile, enfermée dans son palais avec son beau-frère, ensuite avec sa mère, et découvrant petit à petit que son beau-frère nourrissait un amour pour elle et qu'il avait renoncé à l'épouser pour que son plus jeune frère puisse le faire. Donc là, elle est atteinte d'un mal incurable, et son beau-frère, qui avait une certaine liberté d'action, qui s'octroyait un mois de vacances par an, et on ne savait pas ce qu'il faisait, mais il partait sur le continent, décide de l'emmener voir consulter des médecins, et c'est l'occasion du voyage avec elle, qu'il partage avec elle, où ils décident de vivre leur amour jusqu'au bout, puisque c'est elle qui décidera de la fin qu'elle se donnera, se sachant condamnée à plus ou moins brève échéance. Au bout du voyage, à la fin du voyage, elle prendra le poison que lui a donné le médecin pour se soigner, et donc elle décidera elle-même de la fin de son histoire, de la fin de ce voyage avec cet homme. Et en fait, l'adaptation cinématographique est visuellement pour moi une réussite, parce que la femme, qui n'était pas une comédienne très connue, donne bien cette image de la femme qui a un côté grande bourgeoise, aristocrate, complètement prisonnière du milieu social dans lequel elle évolue. Et c'est là que Pirandello fait bien la différence, et qu'il est intéressant de voir aussi dans les nouvelles, entre la nouvelle du voyage et puis les nouvelles qui ont inspiré les frères Taviani, de voir que finalement ce sont les femmes du peuple qui sont beaucoup plus libres, libres d'aimer, d'être aimées, de mettre ou de ne pas mettre au monde des enfants, ou de les reconnaître ou de ne pas les reconnaître. Ces femmes-là sont beaucoup plus libres que les femmes de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, qui sont complètement aliénées à leur milieu, qui doivent répondre, qui doivent donner une certaine image à l'extérieur. Et ça, dans le voyage, c'est le grand message de Pirandello.
Schwarzes, hundert Hände, sei nicht dumm.
Chacun sa vérité, ou le jeu de rôle, ou comme tu me veux, ce sont effectivement, les titres sont souvent des phrases que l'un des personnages dit à l'acmé.
Claudia Stavisky.
C'est comme si, dans ce besoin formidable qu'ils ont de formuler les tensions dont ils sont l'objet, ils sortaient de temps en temps des mots qui sont parfois plus grandiloquents que d'autres. Mais on sent très bien en italien, quand on lit le texte en italien, on sent très bien que ce ne sont pas des tirades explicatives. Ce ne sont jamais. Ces personnages s'adressent très rarement à quelqu'un d'autre. Même quand ils discutent entre eux, en fait, ils ne se parlent pas vraiment entre eux. Parce que de toute façon, on ne peut pas se parler vraiment. Ne serait-ce que parce que la personne en face entend la qualité de vos mots ou le sens de vos mots tout à fait différent de ce que vous entendez vous-même. Donc, de ce point de vue-là, ils pensent toujours que le dialogue hors de la passion, hors du dialogue amoureux, donc, et qui se passe des mots, celui-là est absolument impossible. Et donc, ce que les gens font, c'est, et c'est pour ça qu'ils parlent avec autant de passion, de précision, de vitesse, de mots, c'est pour ça qu'ils parlent autant, c'est qu'ils essaient désespérément d'arriver à formuler quelque chose qui ferait que l'autre comprendrait enfin de quoi il est fait. C'est-à-dire, ils essaient de fixer le mouvement en un seul temps et en un seul moment qui serait, lui, unique. Et ça, c'est la quête de l'impossible. Ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ces aventures-là échouent. Les aventures de ces personnages-là échouent toujours, parce qu'ils poursuivent quelque chose qui est impossible.
Ils poursuivent un auteur, six personnages en quête d'auteur, six personnages en quête de langage, en quête de leur propre langage.
En quête d'existence, en quête d'existence surtout, en quête de, ça va vous paraître stupide, mais en quête de bonheur, hein, tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche d'autre ? Mais c'est encore un mot qu'on pourrait considérer un grand mot comme ça, et qui pour chacun recouvre des choses si différentes. Définir qu'est-ce que c'est que l'amour, ça mettrait autant de temps que d'écrire l'œuvre entière de Pirandello. Il a passé sa vie, nous on passerait la nôtre. Hein. D'ailleurs, on ne fait pas autre chose dans la vie que d'essayer de définir qu'est-ce que c'est cette chose étrange et mystérieuse qui nous relie. Et les corps, je ne sais pas, enfin, ils sont très, 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 très présents. C'est un peu ce que... C'est-à-dire, c'est cette pensée-là qui n'est pas intellectuelle, mais qui est vibrante de chair et de sang, qui fait que ces grandes tirades ne sont pas explicatives, mais elles sont totalement des voyages de vie. Je ne conçois pas des représentations des pièces de Pirandello sans corps très fort.
Quand Pirandello a écrit la pièce « Comme tu me veux », puis d'autres pièces, il y avait cette actrice,
Martha Abba. Oui, Martha Abba. « Comme tu me veux », c'est sa dernière pièce finie. Après, il a entamé « Les géants de la montagne », mais malheureusement, il n'a pas pu la finir. Et cette pièce, il l'a dédiée à Martha Abba, la grande actrice de sa compagnie. D'ailleurs, la dédicace, c'est « À Martha Abba, pour que je ne meure pas ». C'est la dernière des pièces qu'elle a jouées de Pirandello, et il l'a écrite au moment où elle lui a annoncé qu'elle épousait un Américain et qu'elle partait vivre avec lui, avec son mari en Amérique. Donc c'est la dernière pièce qu'elle a créée. C'est un chant d'amour magnifique.
Da quando ero entrato in casa, non mi sentivo solo. Qualcosa brulicava nell'ombra degli angoli delle stanze. Ombre nell'ombra mi guardavano, mi spiavano. Mi guardavano con tanta insistenza che alla fine, per forza, mi sono voltato. Ma certo, mamma, sei tu che m'hai chiamato.
Mais oui, maman, c'est toi qui m'as appelé.
Sì. E io, Luigi.
Oui, c'est moi, Luigi.
E questa è la tua musica, la riconosco.
Ça, c'est ma partition, je la reconnais.
Mi ricordo quando ce la cantavi.
Je me souviens quand tu me chantais cet air-là. Je veux te dire quelque chose par ma voix, avant de me détacher de la vie. D'être fort dans la vie, maman. Hier comme aujourd'hui, comme toujours. Tu te moques de moi? Au contraire, parle-moi, j'en ai besoin. Je suis venue pour cela.
Rilassati invece. Guarda che essere forte non significa dover vivere sempre così. Significa saper vivere anche così.
Mio Dio, mamma, le maman, tue dita.
Tes pauvres doigts.
Vedi, Luigi, come il corpo si era ridotto.
Tu vois comme mon corps a changé.
Per questo la morte è venuta.
Alors la mort est venue.
Doveva venire.
Elle devait venir.
Pirandello pense que au théâtre il faut que le mot soit, je cite le titre d'un essai, l'action parlée. C'est-à-dire il faut absolument ce caractère physique que donne la voix de l'acteur, la présence de l'acteur. Mais il y a chez Pirandello ce désir du caractère physique du théâtre et une très grande souffrance. Dans ses lettres, il y a de très nombreux moments où il dit à quel point il a été, cela a été pour lui un supplice, c'est le mot qu'il emploie, de s'entendre dire par tel ou tel acteur. C'est-à-dire, sans cette souffrance qu'un auteur entende proférer sa parole par un autre. Et là, peut-être, pourrait-on parler de manière, je dirais, non anecdotique, de la relation entre Pirandello et Martha Abba, cette jeune actrice à l'époque où elle a été engagée dans le théâtre d'arte, qui est devenue pour lui celle qu'il a appelée la divine inspiratrice. Martha Abba est au fond l'actrice qui donne à Pirandello la jouissance fusionnelle de s'entendre sur scène parler par la voix de quelqu'un qui est une sorte d'autre lui-même. C'est-à-dire qu'elle est celle qui empêcherait l'existence de tout diaphragme entre la parole de l'écrivain et le spectateur qui entend ce texte proféré.
Non piangere, Luigi.
Ne pleure pas, Luigi.
Se me vuoi bene, così mi devi pensare. Come mi vedi qui ora?
Si tu m'aimes, tu dois me voir comme je suis maintenant. Vivante.
Maman, viva, si, viva.
Oui, maman, vivante.
Ma io non piango per questo.
Mais je ne pleure pas pour ça.
Certo, mamma, che io ti penso. Ti vedo così come sei qui.
Bien sûr, maman, que je te revois telle que tu es ici.
Come ti immagino ora. Viva,
je te reverrai toujours vivante, assise dans ton fauteuil.
Ma io piango per altro, mamma.
Je pleure pour autre chose.
Io piango perché tu non puoi più pensare a me.
Parce que tu ne peux plus penser à moi.
Quando stavi seduta qui in questo angolo, io dicevo.
Assise là dans ton coin, je me disais.
Se lontano mi pensa, io sono vivo.
Si elle pense à moi au loin, alors je suis vivant pour elle.
Questo mi sosteneva, mi confortava.
C'était mon réconfort.
Ora che tu sei morta.
Maintenant que tu es morte.
Non pensi più.
Je ne suis plus vivant pour toi.
Io non sono più vivo per te. E non lo sarò mai più.
Je ne le serai plus jamais.
Ormai io faccio fatica, figlio, a seguirti nei tuoi
discorsi. Je me fatigue à te suivre, mon fils.
Sono diventati troppo difficili.
Tout cela est trop difficile pour moi.
Eppure, una cosa io sento di poter.
Pourtant, je veux te dire encore cela.
Impara a guardare le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più.
Apprends à voir avec les yeux de ceux qui ne voient plus.
Ma quel dolore.
Ce sera douloureux, bien sûr.
Più sacre, più bello.
Mais cela te rendra tout plus sacré, plus beau.
Forse solo per dirti questo che t'ho fatto venire sin qua.
Peut-être est-ce pour cela que je t'ai fait venir.
Je crois qu'il y a au fond deux façons de comprendre l'inachèvement des géants de la montagne. Une façon très, très biographique et qui libérerait de toute interrogation, qui consisterait à dire bon, Pirandello meurt en 36 au moment où il était en train d'écrire les géants de la montagne, et donc ce sont les accidents de la mort qui laissent cette œuvre inachevée. Mais je crois que les choses sont plus signifiante et plus compliquée que cela, car lorsqu'il meurt, les géants de la montagne sont inachevés, c'est-à-dire l'œuvre qui, au fond, pose la question de savoir si on écrit pour soi ou pour les autres. Si le théâtre, c'est ce que le poète destine à lui-même, ou si le théâtre, c'est un message destiné à un public. La pièce qui pose cette question reste inachevée. Le roman, Son mari, qu'il reprend, et qui est le roman dans lequel il y a ce personnage de femme dramaturge. Ce roman est remanié, ce roman qui a un chapitre entier consacré à la fascination et la douleur de l'auteur du texte écrit face à la représentation. Dans son remaniement, reste inachevé. Alors, bon, peut-être est-ce une autre coïncidence. Moi, j'ai tendance à penser que, étant donné que Pirandello, à certains moments, écrit très vite, il y a des pièces qui sont écrites en 15 jours. Si Pirandello met des mois, voire des années, à travailler, retravailler ses textes, dans lesquels, au fond, il faudrait décider de l'essence du théâtre. C'est peut-être que la question n'a pas à être résolue. C'est-à-dire que ces œuvres qui sont inachevées sont peut-être destinées à rester inachevées.
Chiamata Cannone! Cannone! Cannone!
chaos était effectivement lié à son lieu de naissance, à son pays natal, et il avait souhaité se faire incinérer et qu'on rapatrie ses cendres dans une urne au pied d'un arbre bien précis sur le lieu dit chaos, en dessous d'une pierre. Et quand il est mort, l'incinération était interdite en Italie. Donc on l'a enterré momentanément, provisoirement à Rome, et ensuite quand l'incinération a été autorisée, on l'a déterré. On l'a incinéré et on a transporté ses cendres dans une urne, donc en Sicile. La seule chose, alors c'est une histoire aussi, c'est une anecdote très jolie, et d'ailleurs les frères Taviani pensent que ça aurait pu faire une superbe nouvelle de Pirandello, c'est que la personne qui rapatriait les cendres voyageait en avion. Et quand les autres passagers ont appris qu'il y avait les cendres d'un mort qui voyageait, ils ont tous voulu revendre leurs billets pour ne pas voyager en même temps que Pirandello. Alors, la personne qui transportait donc les cendres a décidé de mettre précieusement cette urne dans une valise et donc de voyager avec la valise sans plus rien dire à personne. D'autant que les avions étaient très rares à cette époque-là, donc il ne s'agissait pas de revendre son billet pour un oui, pour un non. Donc, et voyageant, à un moment donné, il y a des passagers qui ont souhaité jouer aux cartes et qui ont joué aux cartes sur la valise dans laquelle étaient enfermées les cendres de Pirandello. Donc alors, non seulement ça, c'était très drôle, ça aurait, je pense, beaucoup amusé Pirandello. Et ça se termine pas là, c'est que la personne, quand elle est arrivée sur le lieu dit chaos, les terres avaient été achetées par un paysan. Et donc, il a fallu attendre à nouveau pour enterrer Pirandello parce que la terre ne lui appartenait plus. Donc, ils ont racheté la terre qui appartenait auparavant à Pirandello, au paysan. Et ce fameux paysan, quand on lui parle de Pirandello, il a peu lui importe l'auteur ou l'homme célèbre, il dit « Pirandello, c'est celui qui m'a volé ma terre ».
Être n'est rien, être c'est se faire, et je me suis faite cette femme-là. C'est l'inconnu qui dit ça au deuxième acte, et c'est effectivement un des nœuds de toute l'histoire. Ça n'a aucune importance de savoir si elle l'est ou si elle n'est pas Lucia Pieri. Ce qui importe, c'est qu'elle s'est faite Lucia Pieri. Et maintenant, plus personne ne sera autant Lucia Pieri qu'elle.
Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, L'étrange étranger par Florence Marguier, avec Claudia Stavisky, Dominique Dubord, Karine Wackers, Jean-Paul Manganaro, Paul-Laurent Assoun. Texte lu par Gabriel Pignoli, Giorgio Longo. Avec les voix de Maria Casares, Berthe Bovy, Archie Vina. Extrait de Comme tu me veux, mise en scène de Claudia Stavisky. Mixage, Noélie Louis-Marie, Jean-François Néolier. Réalisation, Isabelle Iuel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 septembre 1996. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.